5, 4, 3, 2, 1, 0.
Max Newtown et bienvenue à l'épisode 6 du Pro Shop. Cette semaine, dans la Ligue nationale de hockey, évidemment, on va parler de la finalité de la série entre les Blackhawks de Chicago et les Kings de Los Angeles, ainsi que la nouvelle série qui s'annonce, la finale de la Coupe Stanley, celle qu'on attend depuis très très longtemps, surtout avec l'année qu'on a connue avec le lockout entre les Bruins de Boston et les Blackhawks de Chicago. Et aussi, on va parler d'un paquet de sujets chauds dans la Ligue nationale de hockey, tels que les commentaires de Roland Melançon ou, qui sait, peut-être que, il semblerait-il, que Piquet Subban va gagner le trophée Norris. Alors, on va parler de tout cela cette semaine. Mais juste avant, et j'entends déjà mon co-animateur être très, très, très énervé à l'arrière de mes propos, on va tout de suite aller le voir. Benoît Brunette, ça va bien?
Ben, ça va super bien, mon Max, c'est toi.
Qu'est-ce que tu t'en allais me dire, là?
Ben, j'ai dit, il faut pas trop en parler, parce que, tu sais, c'est quand même un petit spoiler. Fait que, si quelqu'un veut garder la surprise... On va se garder une petite réserve. Tantôt, on va averser le monde de se boucher les oreilles. On va en parler.
T'as raison, c'est vrai. Faut pas que, quand même, que je dévoile tout le contenu de l'émission direct en partant. Hein,
sinon... C'est comme si je parlais de la finale de Game of Thrones.
J'ai même pas commencé à écouter la série encore. Là. Faut que je m'y mets dès septembre. Fait que là, on ne parle pas de Game of Thrones ici. C'est un sujet tabou, en tout cas. On en a parlé, tu sais, moi, la semaine passée, justement. Mais anyway, oui, hein, tu sais, là, on va pas laisser.
Alors, revenez un peu, les gars, là, je suis là, moi aussi.
Ouais, écoutez, ouais, deuxième co-animateur, hein, je vais y aller immédiatement le présenter. Simon Brunette, comment ça va?
Ça va super bien. Je vais juste le rappeler pour commencer. Deuxième ronde, j'étais 3 en 4 sur mes prédictions. Troisième ronde, 2 en 2. Fait qu'en tout cas, ça va super bien, mes affaires. Tout va bien.
C'est ton, toi?
De?
T'avais-tu prédit Boston contre...
Ben oui, Boston-Chicago.
T'avais prédit... Ah ouais, pour vrai?
Ben oui, je te le jure. Hein.
Boston en combien?
J'avais dit Boston, c'est sûr que j'ai pas dit 4.
Hein. Je pense que... Ouais, moi, toi, j'ai dit 6. Moi, j'ai
personne ne l'a vu.
Ben, t'avais dit 6, j'avais dit 7, puis j'avais dit Chicago en 6. Hein.
C'est vrai ce que tu dis, Ben. Hein? Tout le monde disait, oh, on n'a jamais vu venir que Boston allait remporter la série, mais je veux juste vous dire... Toi, Ben, est-ce que t'avais prédit Boston?
Et non.
Non, j'ai prédit Pittsburgh, hein, mais je veux juste dire que moi et Simon, hein, au Pro Shop, on avait prédit que Boston allait gagner, puis on s'est
Mais le monde, il disait plus que le monde n'avait pas vu venir un balayage, je pense.
Ouais, encore moins.
C'est ça qui est le plus surprenant là-dedans, là. C'est pas...
Parce qu'on s'entend...
Moi, je voulais vraiment voir une finale entre Sidney Crosby et Jonathan Toews, mais bon, ça va venir une autre année.
Ça va être Patrice Bergeron et Jonathan Toews.
Oh!
Mais on s'entend que c'est vrai que quand c'est facile de prédire une série en 7, parce que prédire une série en 7 matchs, c'est le match ultime. À un moment donné, il faut que la série arrête, puis ça s'arrête là. Fait que si tu veux y aller avec une prédiction sûre, prédis une des deux équipes en 7, de démaudir.
Non, mais faut que tu aies la bonne équipe, que tu dises en 4 ou en 7, tu as eu la bonne équipe. Essaie pas de trouver des excuses, Max, pour que je sois en 2.
Je veux pas diminuer ton espèce d'aura de prophète là, que tu génères depuis le début de ces balado-diffusions, mon cher Simon, inquiète-toi pas.
Exactement.
Je m'abaisserai pas à ça.
Oh, merci.
Mais avant, justement, on va arrêter justement de s'abaisser et de se chicaner. Et allons directement au premier segment de l'émission que vous connaissez tous. Et oui, j'ai nommé les fameux...
Hey! Johnson scores!
Yes! Cette semaine, les gars, that's premier awesome. Top net de la semaine. Patrice Bergeron. Écoute, j'ai parlé de Brad Marchand, de Zdeno Chara, puis je me suis toujours un petit peu abstenu de parler de Patrice Bergeron parce que je me disais, c'est évident que Patrice Bergeron mérite d'être dans les top net. Mais je veux dire, quelle série... Écoutez, tout carasque est incroyable. Zdeno Chara fait le job fantastique. Lucic est imposant et dominant. Mais je veux dire, et Brad Marchand est sournois et précis. Mais C'est quelqu'un qui est toujours là au bon moment, c'est Patrice Bergeron. Il a marqué tous les buts importants, ou presque. Puis je veux dire, selon moi, c'est un trophée Conn Smythe à remettre demain matin, c'est à Patrice Bergeron. Moi, c'est à lui que je lui donne. Sans lui, les Bruins ne seraient pas là. Et je crois qu'il est le cœur de cette équipe-là. Puis que si Chicago veut une chance de remporter cette série-là, je m'attaquerais, je le frapperais, je l'empêcherais de patiner. Parce que c'est lui qui fait battre le cœur des Bruins de Boston. Alors, je voulais juste le mentionner cette semaine.
Ben moi, pour mon premier top 9, je vais y aller avec un gars que... Ben lui, il ne pourra plus patiner pour Boston parce qu'il a une jambe cassée. Puis c'est Gregory Campbell. J'y reproche vraiment rien. J'ai déjà vu des jeux vraiment intenses, mais Gregory Campbell s'est fait casser la jambe sur un tir frappé de Evgeny Malkin. Puis c'est quand même... Il s'est relevé. Il a réussi à se relever sur une jambe cassée. Il a continué à jouer pour bloquer l'attaque de Pittsburgh. Il a même il a avorté une attaque de Malkin en faisant un poke check. Quand tu dis qu'un joueur a du cœur, ben, je pense que Gregory Campbell, on ne pourra plus jamais le voir de la même manière. Même tous les joueurs dans la ligue après cette partie-là, ils ont été sur Twitter et ont fait un hashtag I'm Gregory Campbell. Puis ils disaient comme des exploits qu'ils faisaient pour dire qu'il était tough eux autres aussi. Donc je pense que c'est vraiment un coup dur que Boston devra endurer. Parce que la quatrième ligne avec Campbell, Daniel Paillet et Sean Thornton, c'est probablement la meilleure ligne dans toute la Ligue nationale. On l'appelle la Merlot Line à cause de la couleur de leur chandail dans les pratiques. Puis on va voir si quelqu'un va pouvoir prendre la relève de Gregory Campbell, mais ça reste à voir encore parce que c'est tout un joueur.
Parfait, mais moi je vais vous parler d'un joueur justement que je pense qu'il va pouvoir profiter de cette absence-là. C'est Patrick Kane. Je veux juste rappeler encore une fois à tout le monde que quelqu'un la semaine passée dénigrait ce fameux Patrick Kane.
Je sais pas de quoi tu parles.
Non, je sais pas. C'est un flash que j'ai eu. Mais juste peut-être remettre en perspective, Patrick Kane, 3 buts à la dernière partie. Donc, il a quand même fait son deuxième but qui était presque le but gagnant. Je vais revenir plus tard dans l'émission le pourquoi que ça aurait dû être le but gagnant, mais bon. Il a fait un but, il restait 4 minutes à la partie quand c'était déjà égal. Là. Puis après ça, il en a remis, il a refait un but en prolongation pour faire gagner son équipe. Belle célébration, à se faire aller sur les genoux et bang, bang, bang. Je pense qu'il faisait des signes de cowboy quasiment avec sa belle coupe Longueuil. Là. Mais c'est ça, dans le fond, 3 buts dernière partie, un but la partie d'avant. Puis sinon, il avait quand même fait une belle passe dans la deuxième partie sur un but. Je pense que c'était Brent Bickle, si je me rappelle bien. Puis c'est ça, il a quand même connu une bonne série. C'est pas au global, c'est pas ses meilleures séries. Il a eu de la misère contre Détroit. Mais je pense qu'en finale de coupe, ça va bien se passer pour lui.
Mon deuxième top net de la soirée concerne Mike Richard. Mike Richard qui a été blessé pendant une bonne partie de la série contre les Blackhawks de Chicago. Il a pas réussi à voler la série, tout comme son compagnon de pas de trio, mais d'équipe, Jonathan Quick. Mais je veux dire, quand même, Mike Richard, je l'ai juste mentionné, qu'il a un but et une passe en troisième période du dernier match contre les Kings. Puis c'est lui qui a permis aux Kings de Los Angeles d'aller en prolongation puis de survivre un petit bout de temps contre les Blackhawks. Alors, écoutez, Mike Richard n'a pas eu ses meilleures séries, mais il a quand même eu des beaux flashs, puis il a quand même été dominant à certaines périodes précises durant toutes les séries. Alors, je vais juste le mentionner, Mike Richard a fait une très belle job.
Bien, moi, pour mon deuxième top net, je vais poursuivre encore avec la même équipe, c'est Boston. Je vais leur donner... une bonne main d'applaudissement pour avoir donné un bon coup de balai à Pittsburgh. Je pense que c'est pas un secret. Malgré que, tu sais, j'aime pas les Rangers, mais Pittsburgh non plus, c'est pas dans l'équipe que je tiens le plus à cœur. J'ai jamais vraiment aimé la manière qu'ils ont bâti leur équipe. T'sais, c'était pas leur décision quand même, mais bon, ça c'est une autre histoire. Là, on parle de Boston. Ils ont réussi à battre Boston en 4 matchs. Ils ont seulement alloué 2 buts. Ça, c'est vraiment. Personne ne s'était attendu de ça. Ils ont réussi à neutraliser Crosby, Malkin, Le Temps, Neil, puis Aiden Lloyd également, je pense que c'est pas le point. Rask, il y a eu une moyenne de buts alloués dans toute la série. de 0,44. C'est vraiment exceptionnel. Puis encore plus, c'est son pourcentage d'efficacité de 985%. C'est vraiment bon. David Krejci, à date en série, il a seulement été blanchi 4 fois dans 4 parties sur 16. Quand on parle de constance, Krejci, c'est un bon exemple. Puis, dernièrement, peut-être Nathan Horton, il a 2 buts, 3 passes dans la dernière série contre Pittsburgh. Il est également plus 21 dans toutes les séries au complet. Le plus proche de lui, c'est David Krejci, à plus 14. Donc, il y a quand même un plus 7 de différence entre les deux. Puis, tu sais, moi, je dis que quand quelqu'un est supérieur à tout le monde d'une si grosse marge, ça prouve vraiment que ce joueur-là, tu sais, il est intense. Il est quand même complet, je dirais. T'sais. Des fois, on peut peut-être se dire qu'il se donne pas assez en défense, mais je pense qu'en série, présentement, Nathan Horton, il est dans une bulle. Il est dans sa zone, puis je pense qu'il est sur le point de prouver qu'il peut gagner une Coupe Stanley.
Parfait. Premièrement, je vais mettre une petite parenthèse déjà, là, comme que je fais toujours. Pour moi, je pense que c'est David Krejci, le MVP à date, pas Bergeron, mais bon, on en parlera une autre fois. Non, mais c'était plus à Maxime la parenthèse, là, mais j'ai bien Bergeron quand même.
Une fois cette année, mais il y en a déjà gagné une, Nathan Horton, donc...
Ouais, c'est vrai.
Je te ravise avant que quelqu'un me lance des rushs.
Ben non, mais non, ça se rend pas, on est à la radio. sinon, ben moi, je vais parler de. Tu viens de parler de Boston qui passe un balai à Pittsburgh. Moi, je vais parler un peu du contraire. Je vais parler de Los Angeles qui se sont pratiquement fait passer un balai, mais de la réaction qu'ils ont eue en fin de partie à la poignée de main. Les joueurs étaient souriants, j'ai pas vu personne qui était trop orgueilleux, qui voulait casser son bâton ou quoi que ce soit. En même temps, la série s'était rendue 3-1, des fois on s'y attend un peu. Mais super bonne réaction d'eux, gros sourire, ils étaient heureux pour les joueurs des Blackhawks. Moi, je trouvais ça extrêmement mature comme réaction, donc ils méritent un beau top net. Pour moi, là, c'est la réaction parfaite pour des joueurs d'une équipe sportive.
C'est une bonne astuce d'équipe.
Ben exactement, d'équipe, de joueurs, des bons perdants, puis c'est parfait, là, c'est le même qu'il faut réagir, puis ils vont revenir fort l'an prochain, je suis sûr. Là.
Parlant d'esprit d'équipe, Simon, je crois que s'il y a un gars qui a une super belle esprit d'équipe, puis Ben en a un peu en a parlé tantôt, c'est Tukarask. Je pense que quand un gardien qui veut que ses joueurs gagnent, puis qu'en même temps qui est assez confiant pour montrer à ses joueurs comment gagner, puis là vous allez me dire, ben oui, ben là, Patrice Bergeron, puis les joueurs des Bruins savent comment gagner, puis oui, mais quand t'as un gardien de but qui est confiant en avant de son filet, ça fait toute la différence. Et les Bruins l'ont vécu lorsque Tim Thomas était devant le filet, parce qu'après la première ronde contre le Canadien cette année-là, Tim Thomas était intouchable. Il n'y a pas personne qui pouvait compter contre lui. Puis je pense que Tuukka Rask, avec sa moyenne de 0.44, comme Ben le dit, là, présentement inspire la confiance et inspire la victoire aux Bruins de Boston. C'est sûr que les joueurs en avant de lui sont là pour faire les gros jeux, mais quand même, je pense que maintenant, Tuukka Rask fait partie de l'élite de la Ligue nationale en ce qui concerne les gardiens de but, puis il n'y a plus rien à prouver. C'est sûr que, tu sais, à moins qu'ils connaissent là, des séries lamentables contre les Blackhawks, puis selon moi, ça ne sera pas le cas. Je pense qu'il va connaître des bonnes séries. Je pense que Tuukka Rask va être considéré comme un des bons gardiens à surveiller dans l'avenir de la Ligue nationale de hockey. Alors, c'était mon dernier top net de la soirée.
Ah, bien, moi, pour mon troisième top net, je vais sortir des séries éliminatoires, puis je vais aller un peu plus vers le marché des agents libres cet été. Puis, il y a quand même une catégorie de joueurs qui va vraiment être, selon moi, en demande. C'est celle des attaquants de puissance. On a 4 joueurs qui sont présentement agents libres en devenir. C'est Nathan Horton, Brian Bekele, des Blackhawks de Chicago, Ryan Klo, des Rangers de New York. J'allais dire les Sharks de San Jose, mais il faut quand même arriver en ville. Puis, il y a également David Clarkson, qui joue présentement avec les Devils de New Jersey. J'entends dire que parmi... comme dans les branches, que les Oilers seraient très agressifs cet été envers ce genre de joueurs. Puis, ils aimeraient même aller en chercher 2 de ce genre-là. Ce qui serait assez bon pour une équipe assez jeune, puis qui ont besoin de vétérans, puis de leaders. C'est ce genre de joueurs-là que toutes les équipes ont besoin, donc ils vont être très en demande. Moi, j'aimerais ça en avoir un à Montréal parmi les 4, mais sûrement, il va falloir surpayer pour les avoir. Puis, des fois, il faut que tu surpayes pour avoir quelqu'un que tu veux. Puis on va voir ce que ça va donner. Puis peut-être une petite parenthèse sur Brent Bekele. Dans la dernière série contre Los Angeles, il y a eu 3 buts, 4 passes, 7 points. en 5 matchs. C'est vraiment, vraiment bon. Donc, on va voir s'il va pouvoir poursuivre là-dessus en finale, puis gagner encore plus d'argent, selon moi, plus qu'il va faire de buts.
Parfait, mais premièrement, juste Bécole a autant de points parce qu'il n'a jamais été en face-à-face contre Trevor Lewis, là, c'est la seule raison. Mais bon, fait que moi, pour mon dernier...
T'es fatiguant.
Non, non, mais là, on va se dire une vraie chose, les gars. Pour mon dernier top net, je vais vous parler de quelqu'un de mon coin, de Richelieu, qui a été repêché 4e au total dans le repêchage de la
Ligue. Comment ça, de ton coin? De notre coin?
Notre coin.
Ouais, les gars, vous vouliez déménager...
Ben, oh, ça, ça, ça. Ah ouais, continue.
Avec un gars de mon coin.
T'es traître.
Qui a été repêché 4e au total dans le repêchage de la Ligue junior majeure du Québec. C'est Jérémy Roy, un défenseur. C'est le premier défenseur qui a été repêché dans la QV de cette année. 16 ans, super bon à l'avenir. Un joueur offensif, un défenseur offensif. Super bon en powerplay. Très bon coup de patin aussi. Il a été repêché par Sherbrooke, donc l'équipe là-bas est un petit peu en début et tout. Là, donc, d'après moi, il va être capable de faire l'équipe tout de suite, puis il va pouvoir apporter quelque chose d'important rapidement. Puis c'est pas parce que j'ai un parti pris, parce que j'ai été son moniteur de 40 jours 2 années. Mais bon, mais aussi c'est ça, même cette année, il a gagné 3 trophées, là, dont la personnalité académique de l'année. Il a gagné le trophée Michel Daou pour le meilleur défenseur du Midget 3 et le trophée Daniel Brière parce qu'il a excellé autant sur la glace que côté académique. Donc, je lève mon chapeau, Jérémy Roy. Je suis fier de toi. Puis, je t'ai déjà battu au ballon chasseur.
Oui,
s'il se rend dans la Ligue nationale, j'ai toujours été meilleur que lui dans un sport. Hein.
C'est vraiment pas possible. Mais oui, Simon, honnêtement, c'est super. Je suis entièrement d'accord. Je suis que Ben aussi est d'accord avec ça. On te salue.
C'est un bon jeu qu'on peut bosser dessus. Donc, je suis content pour la concession de Sherbrooke. Ils sont encore à leur début, comme tu as dit. Donc, c'est une bonne manière de bosser son équipe.
Puis, félicitations à toi, Jérémy Roy. Continue à travailler fort. La constance dans les efforts sont la clé du succès. Hein? C'est ça, c'est à peu près ça.
Ça rapporte.
Exact. Bien représenter ma ville et votre ancienne ville. Hein?
Ouais, c'est ça. C'est bon. Écoutez, excellent, les gars. Ceci termine le premier segment de l'émission. Passons immédiatement. Hein, parce que, écoute, je sais pas, mais cette semaine, je me sens un petit peu chialé, mais pas tant que ça. Mais quand même, on va quand même aller chialer. Hein, qu'est-ce que t'as dit, Ben?
Toi, chialeur.
Ouais, moi, ouais. Jamais. Voyons donc. Je chante jamais. Alors, allons-y avec...
Time to be
fed. Cette semaine, messieurs, premier softy, Dan Bylsma. Oui, oui, je voulais vous en parler. J'en ai parlé la semaine passée, mais je veux dire, je ne sais pas si vous avez écouté la conférence de presse que M. Bylsma a donnée, puis là, il disait que Marc-André Fleury allait revenir comme numéro 1 l'année prochaine et tout, le blablabla. Bla, bla. Mais personnellement, je crois qu'à court terme, lorsqu'il a changé Marc-André Fleury, c'était un bon geste de sa part, mais à long terme, un entraîneur dans les séries, il y a un bon vieux dicton qui dit « on meurt avec son gardien de but ». Et je crois que Dan Bylsma, s'il n'était pas certain de savoir avec quel gardien de but il allait mourir en série, ben c'est son problème. Je peux comprendre qu'il veut changer Marc-André Fleury parce qu'il a eu 3 buts puis il a été peut-être un peu terrible durant le premier segment des séries éliminatoires, mais quand même, je pense pas que Thomas Vokoun a fait tant que ça la différence. Puis je serais curieux de savoir à quel point Marc-André Fleury aurait pu être mauvais au point d'amener les pingouins un peu moins loin que Thomas Vokoun les a amenés. Alors, présentement, je trouve qu'on a détruit la confiance à Marc-André Fleury puis avec ce geste-là. Puis en plus, je crois que Dan Bylsma a été injuste envers lui en ne le ramenant pas dans le deuxième segment des séries éliminatoires. Puis écoutez, je crois que M. Bylsma va peut-être perdre la confiance de son équipe l'année prochaine à cause de cela. Puis on peut même commencer à se douter, à savoir s'il a perdu la confiance de son équipe parce qu'elle n'a pas répondu aux attentes durant la série contre les Bruins de Boston.
Bon, d'accord. Ben moi, pour mon premier softie, je vais y aller avec l'équipe de Chicago. Je sais qu'ils ont passé en finale, mais il y a quelque chose que j'ai trouvé qui a cloché en fin de 3e période. C'est que Chicago, ils célébraient déjà au banc avant même que la partie soit finie. C'était 3-3, il restait environ 1 minute et demie. Puis les joueurs de Chicago au banc avaient l'air vraiment contents, ils étaient comme en train de célébrer comme s'ils avaient déjà gagné la game. Mais le problème, c'est que Los Angeles a réussi à égaler la game et aller en prolongation alors qu'il restait juste 10 secondes. Alors c'est peut-être juste pour dire que c'est jamais fini avant que ce soit fini, puis il faut jamais oublier de se donner jusqu'à la fin puis rester focusé. Sinon, on sait jamais ce qui peut arriver. Puis Chicago, ben, selon moi, ils vont avoir appris de ça. Puis j'espère qu'ils vont revenir fort tout le long de la série finale.
Parfait. Ben moi, mon premier soft tease, dans le fond, ça va aller exactement dans la même veine. Je vais expliquer pourquoi que ils ont bien fait de fêter d'avance et que ça aurait dû finir là. Moi, je vais vous parler du beau icing à 10 secondes, environ à 15 secondes de la fin, que l'arbitre, encore une fois, puis en même temps, je reprends Max quand il a dit tantôt que Mike Richards a permis à son équipe de survivre et les rendre en prolongation. J'aimerais juste te corriger en te disant que les arbitres ont permis de faire survivre Los Angeles. Mais bon.
Je suis d'accord avec toi, par exemple, là-dessus. Si c'est
vrai. Ouais, non, ben Mike Richards, il est excellent. C'est lui qui l'a fait. Mais les arbitres, encore une fois, pareil, c'est arrivé avec le Canadien contre Ottawa. On menait d'un but. Un dégagement refusé. Que dans le fond, c'était Carlson qui a fait un beau petit zigzag pour aller la chercher.
On a arrivé contre Détroit puis Chicago aussi dans la série.
Exactement, exactement. Puis là, encore une fois, ça se repasse. Au point, en bout de ligne, le résultat a été du côté de Chicago qui menait avant. Donc, ça n'a pas causé rien de trop. À part que tout le monde a joué deux périodes de plus. Mais ben, dans le fond, ça nous a laissé la chance de voir Trevor Lewis jouer deux périodes de plus. C'est ce que je veux dire. Eh oui, c'est ça. Je trouve ça ridicule, dans le fond. À un moment donné, les arbitres, on dirait qu'ils se disent on veut pas changer l'issue, donc on va le caler et tout. Puis en bout de ligne, ils font juste tout changer l'issue du match. Puis non, je trouve ça. C'est dur, j'imagine que c'est dur aussi pour eux. Le jeu va vite, c'est une fin de partie en plus, c'est intense. Puis ils veulent pas faire un geste qui va causer tout le monde à chialer ou quoi que ce soit. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, faut qu'ils mettent leur culotte et qu'ils assument leur ils assument leur décision, mais c'est peut-être pas les meilleurs. Mais qu'ils assument la vraie décision là, puis qu'ils n'avaient pas peur de la prendre. Comme là, c'était de ranger leur sifflet parce que il n'y en avait pas d'icing. Là. Le joueur a juste arrêté de patiner, fait un petit peu des zigzags pour être sûr. Donc, je trouve ça un peu décevant. Mais au moins, ça n'a rien changé à l'issue de la série et du match en tant que tel.
Parlant d'assumer, hein, Simon, parce que tu viens de mentionner d'assumer des décisions, mais moi, je vais vous parler de quelqu'un qui ne semble peut-être pas assumer ses propos. Et je veux parler de Roland Melançon, qui est mon prochain softie, qui renoue la voix là, sur Twitter récemment, là, je pense, il y a quelques minutes ou quelques heures, déclaré que Roland Melançon avait été mal cité face à ses commentaires à propos de Carey Price. Moi, je suis désolé, M. Melançon, mais premièrement, c'est pas la première fois que vous faites ça, parce que lorsque vous avez été congédié par le Canadien sous l'ère Gauthier-Gainé, vous avez fait le même genre de commentaires, vous avez un peu descendu Carey Price, puis vous avez en même temps aussi craché un peu sur les fans, et vous avez aussi craché sur la direction à l'époque. Et c'est vrai que peut-être qu'on méritait de cracher sur la direction à l'époque, puis je suis un peu d'accord avec ça. Mais par contre, là, faudrait pas commencer à s'emballer puis se mettre à cracher sur tout le monde. Puis faudrait peut-être aussi se regarder dans le miroir, hein, parce que si Carey Price n'a pas été très bon sous l'ordre de Roland Melançon, il ne l'a pas été non plus sous l'ordre. Le Roberto Luongo n'a pas été bon sous l'ordre de Roland Melançon et Carey Price n'a pas été bon sous la charge de Roland Melançon. Alors, ça fait deux gardiens de but de deux équipes différentes qui n'ont pas répondu aux attentes. Puis, c'est deux fois, c'était Roland Melançon qui était l'entraîneur des gardiens de but. Puis, moi, personnellement, je pense que peut-être que Roland Melançon a touché certains points. C'est vrai qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Puis, je suis persuadé que l'éthique de travail de Carey Price n'est pas parfaite parce que c'est pas quelqu'un qui a l'air d'avoir une super bonne éthique de travail. Par contre, il y a des moments pour dire ces choses-là, puis il y a une façon de le faire, puis ça peut se faire de manière directe avec la direction d'équipe sans passer par les médias, puis simplement cracher sur tout le monde à qui mieux. Je pense que ça manque carrément de professionnalisme.
Non, mais c'est vrai, si tu le dis aux médias, c'est que tout le monde va en parler après ça. Puis, ben, c'est comme s'il voulait mettre le spotlight sur lui, puis c'est.
Ça se fait pas. Ça se fait pas.
Non, c'est ça.
On est dans une époque où c'est que le professionnalisme se perd de plus en plus. Puis lorsqu'on travaille dans un milieu qui demande d'être hyper professionnel et qui est en plus est couvert par toutes les plateformes médiatiques et socio-médiatiques possibles, je pense qu'il faut savoir comment agir et comment dire les choses. Puis je pense que si Roland Melançon avait des choses à dire contre Pierre Groulx et contre Carey Price, bien, il avait juste simplement lâché un coup de fil à Marc Bergevin puis en discuter avec lui. Mais de passer par les médias pour le faire, je trouve que ça fait un peu coach de midget ou coach de Bam Tam 2B. Là, c'est un peu très, très bas. C'est un manque de professionnalisme et un manque carrément de savoir-vivre.
Ouf! On va prendre une respiration.
Ouais. Moi, en tout cas, je respecte les coachs de Bantam 2A et tout.
Non, c'est une métaphore.
C'est une joke, je sais ce que tu voulais dire, puis je pense que tout le monde comprend. C'est une petite joke. Ouais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé. Je m'ennuyais.
C'est bon.
OK, c'est bon. Ben moi, pour mon deuxième sortie, je vais y aller avec la Ligue de hockey canadienne, la CHL, qui a décidé d'imposer une règle à partir de l'année prochaine, c'est de bannir les gardiens européens de toute la Ligue. Il y a 60 équipes dans la Ligue, il y en a 52 au Canada, puis 8 aux États-Unis. Puis maintenant, ça va juste être les Canadiens, puis les Américains qui vont avoir le droit de faire la position de gardien de but. Donc, il va pouvoir encore avoir des attaquants, puis des défenseurs, mais pas de gardien de but. Je sais que la position est quand même assez restreinte. Tu as 2 gardiens par équipe, donc ça fait 120 joueurs qui peuvent jouer à cette position-là. Mais quand même, tu peux pas quand même te mettre des limites. Je pense que ça sera pas tous les GM dans la Ligue qui vont être contents de cette décision-là. Mm-hmm. Personnellement, je sais pas quoi dire, je trouve ça un peu stupide.
Mais les GM aiment ça pour voir comment que les gardiens s'adaptent au style de jeu nord-américain aussi. Donc, je pense que ça, c'est un gros moins. Là, ça. C'est dommage.
Je pense, Ben, qu'on est en 2013 puis que... Écoute, là, c'est pas... je veux dire, moi, personnellement, c'est carrément, quasiment du racisme, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, je veux dire, le gars, il est meilleur. Si le gars en République tchèque est meilleur que le gars au Canada, ben, je suis désolé, t'as juste amélioré ton programme au Canada, peut-être
non,
que...
Non, ben, c'est exactement.
Tu sais?
Il essaie pas de corriger ça à bonne place. Il faut que tu corriges ça avant la JMQ ou la WHL ou la OHL. Il faudrait que tu y ailles dans le junior, quand ils ont peut-être 10, 12 ans, 12, 13, 14. C'est là qu'ils devraient devenir des gardiens élites. Ça devrait mettre plus l'emphase sur le développement. Puis ça devrait pas pouvoir couper les jambes à certains directeurs généraux qui voudraient avoir retour aux meilleurs gardiens.
Ben, puis en plus, là, dans le temps, là, quand que le Canada avait pas mal plus d'argent investi dans les programmes canadiens de hockey, là, j'entendais pas personne en République tchèque ou en Suède se plaindre ou en Finlande de dire « Oh mon Dieu, mais c'est pas juste, ils ont plus d'argent que nous autres. » Eux autres se sont mieux organisés avec les années, ils ont mieux investi, ils ont mieux fait attention à leur argent, puis ils sont mieux capables d'investir dans leur programme. Puis aujourd'hui, ben, ils récoltent la somme.
Les dividendes.
Ouais, les dividendes de leurs efforts puis de leur investissement, tandis que nous autres ici au Canada, ben on n'est pas capable d'investir sur nos propres routes, nos propres ponts. Fait que tu sais, c'est sûr qu'on n'investira pas sur nos programmes de hockey. Puis à quelque part, ben c'est dur de blâmer le petit gardien de but de la République tchèque pour ça. Puis moi, je pense que tout simplement, c'est une règle, comme tu dis, complètement ridicule.
Ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi.
On récolte ce que l'on sème.
Ouais.
Oh, ah, quand même. Je m'en dis pas gros, mais ça veut dire quelque chose quand j'en dis. Ah, ben moi, je vais y aller avec, malheureusement pour lui, je pense qu'il a été à chaque semaine dans nos tops, au moins 2 fois dans nos tops, mais en ce moment, je suis obligé de le mettre dans mes softies. Jonathan Quick, je sais pas, je pensais jamais que ça allait être possible que ça arrive, mais Jonathan Quick sur les 2 premiers buts dans la partie numéro 5 qu'il a alloué, c'était 2 buts qu'un gardien en général ne devrait pas laisser passer. Des fois, tu sais, un mauvais but, ça peut être compréhensif, ça arrive à n'importe qui. Sauf que là, en ce moment, c'était 2 buts, ça leur donnait une avance de 2-0 à Chicago, que par après, oui, ils ont été capables de revenir, mais en bout de ligne, s'ils n'avaient pas laissé passer, peut-être, on ne sait jamais, peut-être que ça, en bout de ligne, ça leur a été différent. Mais c'est ça, dans le fond, le premier tir, un tir de la ligne bleue assez mou de Duncan Keith. Dans le fond, c'est un tir qu'en général, tu veux juste mettre dans le fond de la patinoire pour qu'un de tes joueurs aille chercher, ou là, il l'a visé vers le gardien. Elle a passé entre ses jambières, malheureusement. Il l'attendait peut-être pas aussi, c'est arrivé un peu vite. Puis le tir est arrivé un peu de nulle part. Puis après, dans le fond, Jonathan Quick a un peu mal joué sur un hors-jeu. parce que le joueur de Chicago arrivait plus rapidement que son défenseur. Et dans le fond, Jonathan Quick, au lieu d'aller directement sur la rondelle et l'envoyer dans le coin ou juste reculer ou quoi que ce soit, à la dernière seconde, il a essayé de donner un coup dessus, mais c'est le joueur de Chicago qui l'a ramassé quand même. Il a fait une belle passe en avant et Patrick Kane est allé faire son premier but de la soirée. Donc,
pas le Patrick Kane.
Le Patrick Kane est allé faire le premier but de la soirée. Son premier but de la soirée. Donc, c'est ça. Je trouve qu'il méritait un soft tease pour ça, mais il mérite pas un soft tease pour de la manière qu'il joue en général, juste pour ces deux buts-là, parce que par après, tout le restant de la partie, il était phénoménal. Les deux autres buts qui étaient de Patrick Kane, en fond, ça a été des super beaux buts, donc c'était normal. C'était correct. Hein. Je les laisse passer. Je te laisse jamais recommencer.
C'était bien parfait. Puis en fait, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. Puis regarde, moi, je vais terminer avec mon dernier softie. Regarde, je vais juste mentionner Geno Malkin, qu'on n'a pas vu pantoute pendant la série contre les Bruins. Fait que moi, c'est pas normal que je pense que Malkin est quoi, 6'4? 6'5, 6'4, je me rappelle plus sa grandeur, là, 6'4, 200 livres. Puis avec le talent qu'il a été aussi effacé, je sais que les Bruins l'ont contenu en défensive, puis on a sûrement dû dire à chaque fois qu'il est sur la glace, on met deux gars dessus. Mais quand même, je trouve pas ça normal qu'il n'a pas été dominant comme il aurait dû l'être lors des séries de 2000. Oh my god, je pense 9, où c'est que les Penguins de Pittsburgh ont remporté la Coupe Stanley, où c'est qu'il était carrément dominant, puis cette année, il l'a pas été. Alors, c'était juste ça.
Non, c'est vrai. Moi, je vais aller avec deux petits derniers softies. Uh-huh. Premièrement, mon premier softies, ça va être à Nick Kyprios, qui a fait une petite fuite d'informations sur le gagnant du trophée Norris. On va pas trop le mentionner. On va peut-être le mentionner à la fin. Mais si vous voulez pas connaître...
Couchez-vous les oreilles là, là.
Là, 3, 2, 1. PJ Subban, notre bon vieux PJ Subban, a gagné le Norris. Premier depuis, je dirais, Chelios, ça se peut-tu?
Ouais, c'était Chris Chelios, le dernier. Ouais.
Donc, une bonne applaudissement à Subban, mais tu sais, quand même, c'est pas très professionnel de se dévoiler ça avant
même. Mais selon les dires,
c'est pas encore officiel.
Pas encore officiel, donc on va se garder une petite réserve pour l'instant. Donc,
c'est officieux, on va dire.
Mais j'ai entendu dire qu'ils vont sûrement l'annoncer durant la deuxième partie, donc ça serait samedi, donc on va attendre. Puis, mon deuxième softie, c'est l'horaire de la série finale de la Coupe Stanley. OK, ce soir, on est le 12 juin, et d'habitude, en cette date-ci, c'est d'habitude le dernier match de la finale de la Coupe Stanley, où c'est déjà fini. Puis, tu sais, je sais qu'il y a eu un lockout cette année, puis il a fallu qu'ils condensent ça la saison. Mais quand même, on disait déjà à l'époque que c'était trop long, les séries éliminatoires, puis qu'il faudrait peut-être finir avant juin. Puis là, si on va finir, il va quasiment être le 1er juillet. Tu sais, je vais donner comme les dates. T'as le mercredi le 12, ce soir, en même temps qu'on fait le podcast. T'as samedi pour la deuxième partie, lundi le 17 pour la troisième, mercredi le 19, samedi prochain le 22, ça serait la cinquième partie, lundi dans deux semaines, ça serait le 24, ça serait la sixième partie, et s'il se rend au septième match, ça serait mercredi le 26 juin. C'est vraiment tard selon moi. Mais ce qui pourrait être le fun, c'est que le draft a lieu cette année le 30 juin. Donc on aurait juste 4 jours d'écart entre les deux activités. Donc pas le temps de s'ennuyer. Puis on a également les agents libres le 5 juillet. Donc la finale de la Coupe cette année va se finir, mais on va avoir encore quelque chose à regarder.
Non, c'est sûr, mais je pense que le softies va plus aux circonstances que à leur choix, parce que il y a quand même un match aux deux jours, donc...
Mais quand même, j'aimerais que ça se finisse en mai.
Ouais.
Ouais, c'est sûr, mais là, avec le lockout et tout, on aurait eu une saison de...
Ouais. Il y a trop de matchs en saison.
Au lieu de...
Il y a tellement de choses qu'on peut chialer là-dessus.
Ouais,
ben là, comme en ce moment, il y a eu 48 matchs, fait que je pense qu'ils ne pouvaient pas vraiment faire moins s'ils voulaient avoir une vraie saison représentative pour que le monde fasse des séries
c'est vrai.
Mais... Dans le futur, c'est vrai que ça finit tard et tout. Quoique en même temps, personnellement, ça me dérange pas parce que tu regardes puis tout de suite après, tu as le repêchage. Donc, c'est le fun de voir. Les transactions recommencent déjà. Puis,
ouais, c'est vrai.
Quoique ça a déjà commencé parce que je pense qu'ils se sont plus fiés aux dates qu'au repêchage. Donc, bref. Mon dernier softies pour moi, je vais y aller à... Je vais le donner à Papa Jacques Beaulieu, le papa de... notre fameux joueur.
Nate the Great
Beaulieu. Nate the Great Beaulieu. Donc, son père, qui est, d'après moi, un exemple excellent pour un enfant. Non, vraiment pas, sérieusement. Pour mettre un petit peu en contexte, papa et Junior se sont ont eu une petite altercation pendant un tournoi de golf il y a environ un mois, peut-être deux mois. Et les deux, dans le fond, ils font face à des à la justice en ce moment. Il va falloir qu'ils repassent en juillet. Mais je sais pas, le papa, il coach depuis longtemps au hockey, même que là, il a perdu son emploi, mais il a toujours été coach. Son fils réussit à se repêcher première ronde par les Canadiens, son équipe qui rêve toujours d'aller jouer. Il aurait même pu jouer 6 parties cette année, 2 passes. Il a super bien joué. Il était considéré comme le meilleur joueur des Bulldogs cette année. Puis c'était sa première année avec eux, je pense. Benoît, oui. C'était sa première année avec Max. Parfait, merci. Mais tu sais, son fils, ça, tout se passe super bien. Et lui, le papa, au lieu de dire « OK, on met les efforts à la bonne place », c'était plus « on met les efforts à péter des gueules ». Mais non, mais... T'sais, on sait pas, là. Il y a plein de trucs qui ont pu se passer.
C'est accusation de voix de fait, fait que c'est sûr que il y a eu contact.
C'est ça, t'sais, on sait pas tout ce qu'il y a en arrière. C'est les autres qu'ils ont cherché à la base puis qui ont fait des plaintes parce que c'est des personnalités connues. Mais tout, mais je sais pas, tu restes tranquille, il me semble, quand que ton fils est autant sur le bord de la ligne nationale puis tout, puis t'es censé être fier de lui puis t'y montrer les bonnes notes.
Surtout dans un marché comme Montréal.
Ouais, exactement, là. Puis, on a déjà eu dans le passé du monde qui ont eu de la misère avec la justice et tout, mais de nos jours, c'est pas mal plus strict. Puis, des fois, c'est juste un petit quelque chose comme ça qui peut faire que les Canadiens vont peut-être plus opter à l'échanger que le faire jouer. Mais, tu sais, je vais pas aller plus en détail, là. Je pense pas que ça se rende jusque-là. Mais s'il y a un casier, tu sais, ça peut. On sait pas, peut-être qu'il va plus pouvoir se rendre aux États-Unis, ouais, donc il va pas pouvoir jouer. Donc, il y a plein de trucs qui peuvent se passer. Je trouve ça juste ça malheureux, l'exemple qu'il montre à son fils qui est encore jeune. Donc, même si c'est lui qui avait un mauvais fond, il y a une manière de le ramener. Là. Il est pas, c'est pas comme si ça fait 40 ans qu'il est bum et qu'il casse des gueules et tout. Là. C'est, je sais pas. C'est juste ça. Moi, je trouve que mauvais exemple. Là.
Pour la jeunesse aujourd'hui.
Exactement. Mais mauvais exemple pour son fils en particulier. Ouais. Là,
c'est non. C'est vrai que surtout, je sais que, comme tu dis, là, on ne sait pas les circonstances exactes, là, puis on sait qu'il y a eu, du chamaillage, là, qu'il y a eu quelque chose, là, mais c'est dans le milieu, lorsque tu atteins la Ligue nationale de hockey, puis surtout dans un marché comme Montréal ou même dans les marchés juniors aujourd'hui, je veux dire, avec les médias sociaux, avec les caméras, avec les téléphones, tout est filmable, t'es sous observation quasiment 24 heures sur 24. Oui, c'est un inconvénient, ça fait partie de la job, mais je veux dire, chaque travail dans n'importe quel domaine contient des inconvénients, puis ça, c'en est un, puis ça, c'est pour n'importe quel type de personnalité publique. Faut que tu sois en mesure de bien te comporter en public. Puis écoutez, c'est plate, c'est des fois, comme Carey Price a déjà dit, j'ai l'impression que je peux pas sortir de chez nous, mais qu'est-ce que tu veux, petit gars? Si tu vas faire 7 millions par année, il faut bien qu'il y ait des inconvénients, tu sais. C'est plate, mais c'est ça. Fait que ça résume pas mal ce que tu voulais dire.
Ben, ça résume à 100% même.
Puis tu sais, c'est dans tous les jobs, là. Tout le monde qui travaille, là, on a tous quelque chose qu'on se dit, ben j'aime pas ça, ben ouais, mais qu'est-ce que tu veux, c'est un job, là. Hein? Il y a des affaires de fun, puis des affaires moins de fun. Ça, c'est la vie en général, puis qu'est-ce que tu veux. Hein? Tu l'étudies, hein? All right, les gars, ceci termine nos deux premiers segments. Hein? On va maintenant arrêter la petite musique à l'arrière. Oui, oui. Et on va passer au débat. Et en plus, je vous réserve des surprises, messieurs, parce que j'ai pris des notes pendant que vous parliez. J'ai l'air de rien, là. Mais,
t'es un petit coquin à fort,
là. Je suis assez coquin, oui, effectivement. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, là, souvent, je vais te donner les sujets hors d'onde des débats pour que qu'on se prépare, les trois ensemble, pour qu'on se dise de quoi qu'on va parler ou quel genre d'argument qu'on va apporter. Là, je viens de dévoiler un mystère du podcast. Mais là, j'ai changé un sujet. Regardez, j'ai barré là, c'est ma liche. Là, on voulait parler de Roland Melançon, puis nous, j'en ai déjà parlé. Puis là,
on a fait le tour avec lui.
Ben, ouais, j'ai pas fait le tour, là. Je m'étais préparé une joke pour lui.
Fais-la live, là.
Ouais. Je peux la faire live, là.
Vas-y donc.
C'est normal qu'il était meilleur. Il allait boire de la bière avec Carey Price. Ha ha ha! Ok, c'est bon.
Écoute,
je suis le seul qui l'a trouvé drôle. Pis c'est
parce que t'es meilleur.
Non! Non, mais c'est un comeback là, sur la semaine passée, là, que c'est un alcoolique.
Ah! Oh, ok.
Ouais, ouais.
C'est pour ça. Come on, là.
Ouais, ouais. T'es allé chercher ça loin, pareil. Je suis sûr.
Exact.
Si on avait une audience, là, si on avait une crowd, là, une foule, là, ben, t'aurais peut-être des quelques huées, mais c'est pas.
Ouais, pendant ma joke, tu peux même rajouter, je te le permets, des.
Je vais faire ça, écoute. Anyway! Bref, premier sujet de cette semaine, le trophée Conn Smythe. Hein? Parce que tantôt, on s'est comme un petit peu ostiné hors d'onde. Puis les gars, j'aimerais savoir, selon vous, à qui mérite le trophée Conn Smythe dans les joueurs des Blackhawks ou dans les joueurs des Bruins de Boston? Puis vous pouvez me dire là, deux joueurs. Vous pouvez me donner deux joueurs, pas de problème. Qui veut commencer? Oh, là, je vous ai
pas. Ben, moi, je peux commencer, ça me dérange pas. Mais j'irais peut-être plus si ça dérange pas. Là, pour
pas le droit de dire Trevor Lewis. T'as pas le droit
non,
de dire.
Non. Non, mais j'irais pour trois joueurs, tout dépendant là, des deux fins qui peuvent arriver. Si Boston gagne, je pense que ça dépend. Si c'est une série qui est plus offensive, d'après moi, ça peut aller à David Krejci. Mais si c'est une série qui n'a pas beaucoup de buts et tout, je pense que Tuukka Rask, il va se mériter le trophée. Par contre, si Chicago gagne, d'après moi, il n'y a pas de joueur qui se démarque assez offensivement. J'irais pour Corey Crawford. Je sais qu'il n'a pas été exceptionnel autant que Rask ou Quick a été. Sauf que si Chicago gagne les séries, il n'y a personne qui s'est tellement mis à l'écart, quoi que ce soit, pas à l'écart, mais qui a surpassé tout le monde au point de dire que ce joueur-là mérite absolument. C'est lui qui nous a fait gagner les séries. Puis en général, un gardien, c'est toujours gagnant. Quand tu ne sais pas à qui le donner, tu le donnes au gardien gagnant. Il a fait les arrêts, il a gagné d'attitude. C'est ça.
OK, fair enough. Ben?
OK, ben moi, de mon côté, si c'est Boston qui gagne, je vais vraiment y aller avec Zdeno Chara. Je pense que présentement, c'est le joueur le plus dominant de la Ligue. Je l'ai mentionné la semaine dernière, puis il fait vraiment une différence tant qu'il est sur la glace. Il peut neutraliser une attaque. C'est pas pour rien que Boston a juste donné deux buts. Je pense pas que le mérite revient tout à Tuukka Rask. Chara est une grande partie de cette raison-là. Puis moi, je pense qu'il mérite un Conn Smythe. C'est rare qu'on va te donner un défenseur défensif, mais je crois que c'est le genre de joueur qui pourrait l'avoir. Et si c'est Chicago qui gagne, comme que Simon a dit, il n'y a pas vraiment de joueur qui se démarque vraiment à Chicago. Je pense que ça va dépendre de qui va avoir une grosse série. Ça ne serait pas surprenant, disons que Bekele est aussi dominant que contre les Kings, qui pourrait gagner le Conn Smythe. Ça serait vraiment quelque chose qui pourrait l'aider pour avoir un encore plus gros contrat, comme que j'ai mentionné dans mon top net tantôt.
Mm-hmm.
Donc, Chara ou Bekele, si c'est s'il y a une grosse série. Sinon, ben, ça va vraiment dépendre de qui est-ce qui va faire la différence dans la série pour Chicago. Mais du côté de Boston, c'est définitivement Chara.
De mon côté, t'as-tu quelque chose à rajouter, Ben?
Ah, ben, j'allais dire, et toi, de ton côté, Max?
Ah, ben, écoute, ben, merci de me poser la question. De mon côté, moi, Boston, moi, je vois souvent, je vois tout le temps le trophée. Depuis que je suis tout petit, je vois le trophée Conn Smythe comme une question... De fréquence, et je m'explique, là, vous allez dire, de quoi tu parles, là, puis vous avez peut-être raison. Mais tu sais, c'est un peu comme quand on fait un sondage, pour moi, c'est le nom qui ressort le plus souvent. Puis quand j'écoute, tu sais, j'ai suivi pas mal tous les matchs des Bruins de Boston, puis quand j'écoute une partie des Bruins de Boston, le nom que j'entends quasiment le plus souvent, c'est celui de Patrice Bergeron. Puis non seulement je l'entends souvent, mais en plus, je sais qu'il a été dominant dans tous les moments importants, puis que c'est lui qui a quasiment fait les jeux, tous les jeux cruciaux des Bruins de Boston, c'est lui qui les a faits, ou presque. Alors pour moi, c'est même pas discutable, c'est Patrice Bergeron. Puis je crois vraiment, là, tu sais, on va y aller, je vais y aller très radical, là, mais il faut. Si j'étais Chicago, je chercherais carrément à neutraliser, si c'est pas éliminer Patrice Bergeron du jeu. Je le frapperais le plus possible. Tu sais, ça a l'air méchant, là, mais c'est pas de le frapper pour le blesser, c'est de frapper pour le ralentir. Puis tout le temps, tu sais, même s'il y a des antécédents comme ça cérébral, à un moment donné, t'as pas le choix. Tu sais, tu vas te faire frapper de ton côté, tes meilleurs joueurs vont se faire frapper, mais les Mariana Sup, les Jonathan Taves, puis les Patrick Kane vont se faire frapper, alors je m'attends à ce que Patrice Bergeron se fasse frapper, puis pour moi, comme je l'ai dit, c'est le cœur de l'équipe, fait qu'il mérite le trophée Conn Smythe du côté des Bruins, et là, je m'en laisse une longue parenthèse, puis je vais m'arrêter là. Puis, du côté des Blackhawks, je vais y aller avec Brian Bickle, parce que encore là, c'est la même raison. Lorsqu'on écoute une partie, on entend Jonathan Taves beaucoup, mais celui encore là qui a été le plus impliqué lors des moments importants, ça a été Brian Bickle. Puis j'hésite un peu avec Seabrook aussi, mais je suis un peu moins certain de celle-là.
Le seul truc que moi j'ai remarqué, puis les statistiques le disent, ils vont donner, puis je suis d'accord avec vous autres, c'est la personne qu'on va entendre son nom le plus souvent. Mais en général, ils vont se fier aux statistiques. C'est dommage qu'il y aille juste pour ça. Mais en ce moment, Patrice Bergeron, ça peut changer, mais il y a 11 points en 16 parties. Il n'y a même pas un point par match. Nous, on le sait, on le voit jouer. Excellent, mais c'est rare qu'ils vont le donner à quelqu'un qui n'a pas... Surtout un attaquant offensif, c'est rare qu'ils vont le donner à quelqu'un qui n'a pas accumulé plus qu'un point par match.
Puis écoutez, les gars, je vais pousser ma lock, là. Puis je sais pas... Je t'entendrais me demander si Brad Marchand n'est pas dans la course non plus.
Oh. Je ne penserais pas. Je penserais pas. C'est vraiment...
J'espère que non.
C'est rare. À la limite, peut-être qu'ils veulent changer le principe du Conn Smythe, mais d'après moi, là, ils donnent soit à un gardien qui a été un gardien qui a été vraiment incroyable, soit qu'ils donnent à un attaquant qui a fait plus qu'un point par match, soit qu'ils donnent à un défenseur que ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé, qu'en général, il accumule pratiquement un point par match, mais qui a été solide.
Ouais.
Le dernier défenseur, c'était Scott Niedermayer. Il avait eu, je pense, 12 points en 22 parties. C'est un des défenseurs dans les 20 dernières années qui l'a reçu, qui a pratiquement pas eu un point par match. Sinon, si on recule, Jonathan Quick l'an passé, excellent. Tim Thomas, excellent aussi. Jonathan Taves, il l'avait gagné en 2010. Il y avait un petit peu plus qu'un point par match. Evgeny Malkin, en 2009, comme que tu as dit, il y avait pratiquement 34 points, je pense, en 24 matchs.
Il avait été...
Ouais, Henrik Zetterberg, l'année d'avant, qui avait plus qu'un point par match aussi. Donc, en général, ils vont plus se fier. C'est plus facile pour eux. D'après moi, ils ne reculent pas jusqu'à... On va écouter toutes les parties du début.
Ouais, non, non.
Puis je me demande lequel nom que j'ai entendu le plus, mais je suis totalement d'accord avec toi que logiquement, tu y vas avec la personne. C'est des héros obscurs, comme Bergeron en ce moment. Il est plus le héros obscur parce qu'il sort quand il a vraiment besoin, mais c'est pas lui qui est là à toutes les parties puis tout faire là, comme David Krejci. Que je dis pas ça parce que je l'aime plus quoi que ce soit. Il a quand même 21 points en 16 parties. Il a été constant. Il a fait 4 buts dans la série contre Pittsburgh. Il a fait le premier but de la série qui a fait gagner son équipe. Je pense qu'il a 2 buts gagnants. Là, que à chaque fois, il place bien ses buts puis il est là depuis le début. Il y a plein de points, c'est facile. Je pense que c'est plus facile pour quelqu'un de le donner à lui qui a plus de points et qu'il dépasse tout le monde dans les points qu'aller le donner à quelqu'un qui est justement le héros un peu plus obscur. Que... Parce qu'après ça, il faut qu'il s'explique. Tu sais, ah, pourquoi ouais, Bergeron? Vrai. Ah, ben il a bien joué défensivement. Puis ben, non, non, tu donnes à quelqu'un, il a fait le plus de points, fine. Ben crime, c'est facile.
Ouais.
Les statistiques expliquent. Puis c'est dommage que ça en soit là, mais je pense que en général, là, le Conn Smythe, ils vont le donner dans l'équipe puis ils vont prendre le meilleur pointeur dans les attaquants, le meilleur pointeur dans les def, puis le gardien de but, puis ils vont regarder lequel des trois qui a été le plus incroyable là, que comparé aux autres années, là, quelqu'un qui est sorti le plus de l'ordinaire, puis ils vont lui donner là, ça.
C'est bon. Ben, tu as quelque chose à rajouter là-dessus?
Ouais, tu sais, je tentais de regarder les derniers gagnants de Conn Smythe, puis c'est... Pour rajouter à mon point de Chara, je pense qu'un gars comme Scott Stevens, c'est en 99-2000, il avait gagné Conn Smythe, il avait eu 3 buts, 8 passes pour 11 points en 23 matchs. Tu sais, je pense que ça va être rare qu'on va voir ça, mais c'est encore possible. Puis Chara, c'est le genre de joueur qui n'a jamais vraiment eu beaucoup de reconnaissance. Je sais pas si on peut dire comme ça. Mais ce serait le fun de le voir gagner, mais on va voir qu'est-ce qui va arriver d'ici la fin des séries. On peut pas donner le Conn Smythe avant que ça soit joué.
Oui,
vas-y, Max. Non, vas-y.
Non, je le disais, Moutou, j'ai hâte. Honnêtement, c'est. Tu sais, souvent, il y a des années où c'est que c'est sans équivoque, là. Tu sais, je veux dire, on sait tous qui va gagner Conn Smythe. Puis cette année, j'ai hâte. Je suis curieux. C'est vrai que, tu sais, si Tuukka Rask maintient encore une moyenne de 0.44,
ça va être dur de ne pas y donner.
Ça va être dur de ne pas y donner, là.
Ben, en même temps, Rask, depuis le début, il a une moyenne de 1.75. Puis Crawford, depuis le début, il a une moyenne de 1.74. Donc, tu sais, si on se fie aux statistiques.
Crawford joue le pourcentage. Là. Crawford,
je sais. Mais pourcentage, Rask en a vraiment un meilleur.
Ouais.
Mais il goal dans son net, là, Crawford. Là. Il joue sa grosseur. Puis sa...
Mais ça, c'est dans 5 ans, on va s'en rappeler. C'est souvent
ça. Il y a eu des bonnes stats, fine. Mais je vais même rajouter, là, d'après moi, là, même si Chicago gagne, Rask a peut-être des chances de le gagner. S'il joue une bonne série, là, comme qu'il joue en ce moment,
c'est vrai.
Moi, je pense qu'il peut même le gagner en 2003. Jean-Sébastien Jugal avait gagné avec Anaheim, même s'il avait perdu. Ouais.
Mais ça, c'était dans un contexte où c'est que les Ducks ne juraient que par lui. Là. C'est parce que les Ducks ne faisaient pas grand-chose. Là, c'était vraiment comme évident aussi. Là. Je veux dire, là, c'est sûr qu'il est dominant en Rask, mais je veux dire, il y a quand même... Les Bruins contribuent autant à la défense qu'à l'attaque. Tu sais, je veux dire, c'est pas mal. La contribution est quand même bien partagée dans l'équipe, tandis qu'en 2003, je veux dire, quand les Ducks étaient rendus en finale contre les Devils, si je me souviens bien.
Ouais, exactement.
C'était contre
les
Devils, puis je veux dire, Giguère avait été. Durant toutes les séries, avait carrément été dominant, puis ça n'avait pas été de lui. On ne pouvait même pas penser que les Ducks auraient passé la première ronde.
Ça n'aurait pas été de Steven qui a carrément tué Paul Carrier.
Ouais.
Ça aurait été un autre
histoire. Il était revenu, c'est un beau comeback. Hein.
Ouais, puis je pense qu'il n'aurait pas dû revenir. Mais ça, c'est une autre histoire.
Bon, ben écoutez, les gars, c'est bon, ça complète pour le premier sujet. Mon deuxième sujet, je vous pose des questions. Là, présentement, j'ai lu comme quoi que les Islanders de New York avaient cédé les droits de négociation de Mark Streit aux Flyers de Philadelphie. Puis je vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'est un bon geste? Puis est-ce que vous pensez, si jamais Streit décidait de signer avec les Flyers, est-ce que vous pensez que ça serait une bonne acquisition? Parce qu'il est quand même âgé de 34 ans, je crois. Il n'est pas jeune. Puis est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut aux Flyers de Philadelphie? Puis j'aimerais savoir aussi vos pensées par rapport au fait que les Flyers ne semblent pas vraiment se fier au repêchage pour bâtir un club de hockey. Là, on se fie souvent
sur les échanges.
Mais souvent, dans leurs échanges, ils vont chercher des jeunes joueurs. Donc, ouais, c'est sûr. Mais, OK, ben, je peux-tu commencer là-dessus?
Vas-y donc.
Ouais, okay. Vas-y.
Ben, personnellement, je trouve que présentement, les Flyers, ils cherchent un défenseur d'impact. Est-ce que Mark Streit, c'est la solution pour un défenseur d'impact? Ça, on peut pas vraiment dire présentement. T'sais, ils ont Kimi Timonen, qui a sa dernière année. Chris Pronger, il est encore sur le cap, mais tout le monde le sait, il a pris sa retraite, puis il ne peut plus jouer. Ils ont Coburn, ils ont Mizaros, ils ont Luke Shen, ils ont Grossman. C'est tous des joueurs qui sont quand même assez jeunes, puis ils ont besoin d'un gars quand même plus âgé pour pouvoir aider ces jeunes-là. Ouais, des vétérans.
Un leader à la défensive, un général.
Ouais, puis tu sais, Mark Streit, c'est un gars qui a été le capitaine des Islanders pendant 4 ans à peu près.
Mm-hmm.
C'est quand même longtemps. C'est, on peut dire, OK, ils n'ont pas beaucoup de joueurs à New York pour les Islanders, mais tu sais, je n'irais pas jusqu'à dire ça. C'était le capitaine de l'équipe suisse également.
Donc, il est souvent blessé aussi.
Ouais, on pourrait dire ça comme ça, mais tu sais, tu peux pas vraiment.
Mais non, je te fie là-dessus, je comprends.
Je te fie là-dessus, c'est de la malchance quand même. Là. Je pense pas qu'il soit si injury prone que ça.
Mm-hmm.
En même temps, cette année, il a tout joué les parties. L'an passé aussi, il a fait une saison de 82 matchs. L'autre saison d'avant aussi. Ben, il a manqué une saison complète, dans le fond, 2010-2011. Mais même 2009, ouais. Il avait fait
c'est après son contrat, 82 matchs. C'est après avoir signé son nouveau contrat, je crois. Ou c'était l'année d'après.
Ben, regardez, 2006, il a fait 76 parties sur 82. 2007, 81 sur 82. 2008, 74 sur 82. 2009, 82 sur 82. 2010, il n'a pas joué, il a été blessé toute la saison. Sinon, 2011, 82 sur 82. Puis 2012, 48 sur 48. Donc c'est assez constant.
Oui, c'est assez constant, je trouve. Moi, j'ai toujours aimé, en plus, à Montréal. J'avais trouvé dommage qu'on n'avait pas pu leur signer. Mais en même temps, on n'était pas sûr la saison d'avant s'il allait vraiment être aussi bon. Puis l'année de son free agency, l'année qu'il allait être libre sans restriction, il a quand même donné une performance qu'on n'aurait jamais douté de lui. Parce qu'il venait juste d'arriver de l'Europe en plus, ça faisait un an ou deux. Donc, tu sais, je crois qu'il peut encore donner des bonnes années au club qui va le sélectionner. qui, après moi, j'ai lu que Marsh Wright, il est vraiment intéressé de signer avec les Flyers, mais présentement, il faut qu'il attende d'avoir comme le temps de pouvoir faire des buyouts, mm-hmm. parce que présentement, ils n'ont pas le droit d'en faire sans qu'il y ait de pénalité sur le cap. Donc, je crois que ça va être après la finale de la Coupe Stanley.
Ouais, mais ils ont jusqu'au 5 juillet pour.
Ouais, c'est ça, ils vont avoir le temps. Avec moi, lui, puis, les deux, ils ont l'air intéressés. Là. Les Flyers, ils ont donné quand même un choix de quatrième ronde, puis c'est pas n'importe quoi. Là.
Et ben, pour des droits, c'est quand même assez rare qu'une
équipe... Ouais, c'est ça, c'est rare qu'ils vont donner aussi haut.
Ben, je te pose la question, quels seront les deux buyouts des Flyers? Parce que c'est sûr que les Flyers vont faire deux buyouts.
Ouais, ça va être dur. Selon moi, tu peux pas te permettre de garder Brizgalov.
Ouais, je suis d'accord. Puis Chris Pronger...
Ouais, Chris Pronger, tu sais qu'il va pas jouer. Il jouera plus, puis il fait quasiment 5 millions sur la masse,
ouais.
Donc, tu sais, c'est dur de...
Hey, c'est 14 millions, ça, de...
C'est gros, hein.
C'est beaucoup. Puis par année, là.
Hey, puis Brizgalov, il y a encore un contrat jusqu'en 2020.
Ouais, mais ça, c'est... Ça, on peut peut-être... Ben, Simon, est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais rajouter sur Mark Streit? Parce que j'aimerais
ça... Ben, je pense juste que c'est la preuve que Timonen va pas être de retour l'an prochain. C'est deux joueurs qui sont quand même assez semblables dans leur style de jeu. Puis les deux super bons apports offensifs. Fait que je pense juste qu'ils se préparent à remplacer Timonen, maintenant. Qui était pas mal leur corps arrière. Donc... Ben, je sais pas, est-ce que c'était bien sa dernière année de contrat?
Non, finalement, il en reste un autre...
Okay.
En 2013-2014.
Okay. Parce que les deux sont assez semblables. Mais Timonen
c'est un très bon passeur. Ans.
Ouais, c'est sûr. Ben, c'est sûr. T'sais, les deux, c'est quand même assez semblable dans leur style de jeu.
Ils peuvent jouer ensemble sur le jeu de puissance. Puis ça va donner un bon combo, selon moi. Là.
C'est sûr, mais en même temps, c'est un vétéran comme ça. T'es mieux de le mettre avec un jeune qui peut apprendre offensivement. Puis tout.
Ouais, mais.
Je
sais pas si ils ont vraiment les ressources pour ça. T'sais. C'est Coburn, peut-être. Mais Zaros, on s'attendait à plus de lui quand il était avec Ottawa. Puis il n'a jamais vraiment monté d'un cran. Saison recrue, il a comme topé déjà. Ouais.
Mais c'est parce que Mizaros était bien encadré. Je pense que quand il jouait Mizaros, il y avait Chara et Redden qui étaient là. Je me sens
Ouais,
pas.
C'est vrai.
Ouais. C'est facile. Là. Ça, c'est comme Sarek. Là. Comme Sarek était bon parce que Markov était là, puis Surrey était là, puis Strait était là. Comme Sarek, il paraissait très bien. Là. Je veux dire, c'est la même affaire. Mais il faut que tu sois capable d'évaluer ton environnement de club aussi, puis c'est qui apporte à ton club. Là. C'est sûr qu'un joueur qui est T'sais, on appelle ça la zone proximale de développement, le ZPD, OK? Ça veut dire que si, mettons, tu prends quelqu'un qui est très, très bon, puis que tu mets quelqu'un qui est peut-être un peu moins bon à côté, puis que les deux travaillent de la même manière, t'sais, au moins s'ils ont la même éthique de travail, ben c'est sûr que le plus faible, ben son jeu va s'élever d'un cran parce que t'sais, l'influence puis l'apport de l'autre va l'aider, t'sais, je veux dire.
Ouais, c'est vrai.
C'est dans n'importe quoi, cela, là. Tu sais, je veux dire.
Je pense que Mézaros va être bon quand même. Là.
C'est pas un premier défenseur, c'est un
joueur de 30 points. Fait que, tu sais, il peut être ton troisième défenseur, puis tu le mets avec quelqu'un d'autre. Tu sais, il est quand même assez stable. Il a eu deux mauvaises saisons. C'est quand il jouait avec le Lightning. On s'entend que c'était pas la meilleure place ces années-là. Il était pas super bien encadré. Depuis qu'il était avec les Flyers, il refait ses 30 points par saison en moyenne. Donc, je pense que même lui avec Mark Streit, les deux ensemble, mais c'est ça. D'après moi, personnellement, ça devrait être Streit ou Timonen, un des deux. C'est that's it, là. Mais peut-être qu'ils vont garder les deux puis ils vont me prouver le contraire.
All right.
Donc, on est rendu dans un temps dans la ligue que tu as besoin d'offensive, puis tu peux pas. Selon moi, ça peut pas être mauvais d'avoir les deux en même temps.
Ouais.
Pour une année au moins, parce que Timonen, après ça, il va s'en aller. Il va peut-être prendre sa retraite également. Donc.
Good. Juste en terminant, les gars, écoutez, avant de partir aux médias sociaux puis de ramener ça à la maison, hein, c'est pour pas utiliser l'expression anglaise. En un mot, OK? Ben, en fait, je vous donne un choix de réponse, OK? Vite, vous me dites vite, OK? Joanne Quenneville ou Claude Julien, qui va avoir dessus? Ben.
Joanne Quenneville.
Simon.
Colin. Ben, je vais prendre Quenneville puisque je prends pour Chicago.
OK. Moi, ça va être Claude Julien.
OK. Puis on fait nos prédictions?
Oui, attends une minute, je suis pas rendu là.
Oh!
Dernière chose, en un mot, qu'est-ce qu'il y a à Phoenix? Puis pourquoi que Gary Bettman veut garder ça à Phoenix? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Phoenix? Un mot.
J'aurais plus un mot pour dire ça, parce que j'ai entendu dire que il ne mettait pas de côté de faire une relocalisation dès l'année prochaine.
Okay.
Il a dit ça en entrevue tantôt. Puis, je vais y aller avec Seattle. Oh!
OK.
Tabou.
Puis moi, il va y avoir juste deux tirets, là. Tête de cochon.
OK, moi, je vais y aller avec terrain de golf et soleil. OK?
Oh, c'est bon, ça.
OK. C'est plus facile, hein, quand on va voir un match à Phoenix. Ah, oh, faut qu'on se déplace à Phoenix, on va aller manger sur une petite terrasse, puis on va aller tout au soleil, puis les beaux hôtels, et etc.
La glace à fond.
Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Bon, écoute, c'est bon. Et oui, on va faire nos prédictions vite, vite. Alors, Ben, je te pose la question. Tu me dis Chicago, Boston, en combien?
Moi, je vais avec Chicago en 6.
Chicago en 6. Chicago en 6. Puis Simon?
Ben, j'avais Chicago en 6 aussi.
Chicago en 6.
Oh, puis également, mon bon ami Jared Sinardi vient juste de dire Chicago en 7 sur Twitter. Twitter.
Ouais, c'est parce que c'est normal, c'est un joueur du Canadien, puis on est tous Boston. Moi, je vais aller avec mon cœur, ça serait Chicago. Avec ma tête, je vais aller Boston en 5.
Ah, les deux, bon.
Yeah.
Regarde, Chicago en 5 d'abord. Tu veux mettre ça bas? ouais.
OK, je te change. Simon, Chicago en 5. Ben, Chicago en 6. Puis moi, Boston en 5. C'est bon. Excellent. Alors, écoutez, il reste 2 petites minutes à l'émission. Alors, allons directement aux médias sociaux.
Look at me. I have the power!
Alors, juste en terminant, hein, je voudrais commencer par vous remercier, les gars. Hein, super chaud, j'ai bien aimé ma soirée et ce podcast. C'était très agréable et je trouve qu'on était en synergie. Hein,
merci, Max.
Wow.
Écoutez, chers auditeurs et auditrices, je vous rappelle de nous suivre sur Facebook, d'aller sur Facebook, dans la barre de recherche, d'aller marquer le Pro Shop en 3 mots et de cliquer « J'aime », très, très important. Et aussi, parlez-en à vos amis, hein. Je veux dire, là on est en période de rodage pour être prêt pour la saison officielle du Canadien de Montréal, mais je veux dire, parlez-en, partagez, et aussi venez nous voir sur Twitter, hein. Venez nous rejoindre à A commercial Le Pro Shop ou A commercial Taupi, ça c'est le Twitter de Benoît Brunette, Taupy, et sinon vous pouvez rejoindre Simon Brunette à A commercial Simon Brunette, Simon Brunette. Ça me fait plaisir de vous parler, de discuter avec vous. Si vous voulez nous donner des conseils constructifs, ça va me faire plaisir. Si vous voulez débattre par rapport aux activités de la Ligue nationale ou à la présente série de la finale de la Coupe Stanley, ça va me faire plaisir aussi. Alors, n'hésitez pas à venir nous voir sur Twitter. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire positif sur iTunes et de mettre 5 étoiles. Ce serait super apprécié. Ça nous aide de monter dans les rangs chaque semaine. Puis ça nous aide à avoir plus de visibilité en ce qui a trait des balado-diffusions francophones du Québec. Et est-ce que j'ai oublié une chose à part de ça? Non, c'est pas mal tout. Écoutez, c'est ça. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur Facebook parce qu'on va y répondre chaque semaine et on va mentionner vos noms en ondes. Ça nous fait plaisir. Fait que n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questionnements par rapport à
quelque chose. Même des idées de débat, ça va nous faire plaisir.
Allez-y, vous avez juste à partager ça sur Facebook. Puis nous, on va prendre ça en note parce qu'on regarde nos Twitter et nos pages Facebook à tous les jours. Alors,
souvent même.
Ouais, très, très fréquemment. Alors, n'hésitez pas. Alors, sur ce, bonne soirée. Je vais vous laisser avec le mot de la fin à Simon Brunette en espérant que ça va être un petit peu drôle. Sinon, je vais mettre juste un bout à la fin avec des spectateurs. Ça va être bien fun.
Merci, Max, pour la confiance. Parfait. Ben, je vous souhaite bonne soirée, tout le monde. Et en terminant, s'il vous plaît, partagez-nous. Sinon, je vais être obligé de vous envoyer... Papa Beaulieu à la maison et vous voulez pas voir ça.